dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. Première épître de Pierre au chapitre 2, et j'aimerais lire avec vous tout d'abord les versets 11 et 12, et ensuite je lirai avec vous les versets 1 à 7 du chapitre 3. Voici ce que Pierre a écrit dans sa première lettre, le deuxième chapitre, à partir du verset 11. Mes chers amis, vous êtes de ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande. Ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Voilà pour le premier passage. Vous pouvez maintenant prendre 1 Pierre chapitre 3. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole, par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu, et elles étaient soumises à leur mari. Tel était le cas, par exemple, de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait « mon Seigneur ». C'est d'elle que vous êtes les filles, si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. J'aimerais aborder ce matin avec vous la suite du message que j'ai apporté au mois d'octobre de l'année dernière. Alors ça paraît lointain, mais ça n'est pas aussi loin que ça. Mais c'est pour cela que j'ai relu notamment le passage que j'avais traité à ce moment-là, pour qu'il soit aussi bien attaché dans votre mémoire, que vous puissiez bien vous souvenir ce qui précède ce que je vais dire ce matin. Et dans la prédication que j'avais faite lors du mois d'octobre, eh bien, nous avions pu voir quelle attitude Pierre appelait les épouses chrétiennes qui avaient un mari non chrétien. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir comment les maris chrétiens sont appelés à se comporter vis-à-vis de leur épouse non chrétienne. Comment est-ce que les époux chrétiens sont appelés à vivre la relation d'amour avec leur épouse lorsque celle-ci n'appartient pas au Seigneur ? Nous allons voir tout d'abord, et ça c'est un rappel de la prédication que j'ai donnée la fois dernière, mais nous verrons tout d'abord que Pierre exhorte d'une manière générale les chrétiens à avoir une bonne conduite au milieu des païens, et nous verrons qu'il exhorte tout particulièrement les maris au discernement et au respect envers leur épouse. La question de la relation entre les épouses et les époux, elle prend place dans une question qui est plus générale de bonne conduite au milieu des païens. Le passage de 1 Pierre 2, les versets 11 et 12 que j'ai lu en introduction, en début de cette prédication, eh bien, ça commence une nouvelle section de la lettre de Pierre. Pierre a terminé de parler du sujet précédent et il va du coup commencer à parler d'un autre sujet. Et dans cette nouvelle section, il va aborder la question des relations entre personnes. Il va parler notamment de la soumission à ceux qui gouvernent, des versets 13 au verset 17. Ensuite, il aborde également la question de la relation entre les esclaves et leurs maîtres. Ça nous paraît peut-être un peu plus déconnecté de notre réalité parce qu'aujourd'hui, cette relation de maître et esclave n'existe plus vraiment, mais on pourrait l'apparenter à la relation entre un patron et son employé, par exemple. Et enfin, il traite, au verset 1 à 7 du chapitre 3, les relations entre les épouses et leur époux. Et Pierre exhorte donc, dans sa lettre, les croyants à avoir une bonne conduite au milieu de ceux qui ne connaissent pas le Christ et que Pierre appelle ici les païens. Pierre appelle à être différent du monde dans lequel nous vivons. Il va dire notamment « mes chers amis ». Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour de la part de Pierre quand il leur parle. Et quand on se rappelle du Pierre des évangiles, on se dit que le Saint-Esprit est vraiment passé par là et qu'il n'est sans doute pas juste passé, mais qu'il est resté également. On peut voir que Pierre semble avoir de l'amour pour ces personnes à qui il écrit. On se rappelle souvent du Pierre fougueux qui est prêt à trancher des oreilles et qui est prêt à ne jamais abandonner Christ, mais qui finalement fuit à la première difficulté. Et nous voyons ici que Dieu l'a changé aussi et transformé. Et il va leur dire, mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. Pierre rappelle que ici-bas, nous sommes des personnes qui ne faisons que passer, même si le passage est des fois très long. Le grand-père de Chantal atteint presque les 100 ans, c'est un passage long, mais c'est un passage quand même. Mais il leur dit, vous êtes seulement de passage ici. Ce n'est pas ici votre vrai lieu d'appartenance. Et du coup, il dit, puisque vous n'appartenez pas vraiment à cette terre, à ici, eh bien, il dit, c'est pourquoi je vous le demande. Ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Pierre nous appelle à être différents de ce monde, à ne pas céder à la tentation de vivre comme les autres qui ne connaissent pas Dieu. Et il va dire notamment, eh bien, que cela touche les relations entre les époux et les épouses. Ça concerne aussi les relations avec ceux qui gouvernent, aussi les relations entre maître et esclave, mais ça concerne aussi la relation entre époux et épouse. Pierre appelle à avoir une bonne conduite au milieu des païens, une conduite qui soit fidèle à la parole de Dieu, parce que c'est ce qu'il attend de nous. Et on ne pourrait pas se dédouaner en disant « Eh bien, écoute, Seigneur, je ne me suis pas comporté comme tu voulais parce que je n'étais pas avec d'autres chrétiens. Du coup, je ne me suis pas comporté comme tu l'aurais attendu. » Pierre dit, vous êtes dans ce monde, vous êtes de passage, vous êtes des résidents temporaires, et tant que vous êtes ici, eh bien vous êtes appelés à vivre différemment de la manière dont le monde vit. Vous êtes appelés à vivre en conformité avec ce que vous êtes devenu en Jésus-Christ. Et Pierre va donner une raison à cela. Il va dire, ayez une bonne conduite, verset 12, au milieu des païens, ainsi dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et ils loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Pierre nous dit qu'il y a une bonne raison de se comporter comme Dieu le veut. Alors, au-delà du fait que nous devons obéir à Dieu, eh bien, Pierre dit que ça a des conséquences aussi sur les relations qu'on entretient avec les personnes qui nous entourent et qui ne connaissent pas le Seigneur. Pierre va dire, eh bien, les païens verront vos bonnes actions, même dans les domaines où ils vous accusent. Et quand Dieu va intervenir pour eux, eh bien, ils reconnaîtront bien que cela vient de Dieu. Du coup, Pierre nous dit, eh bien, dans nos relations avec ceux qui nous entourent dans ce monde, eh bien, si on vit comme Dieu le veut, ce sera un bon témoignage. Même si on est parfois accusé de choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vraies, parfois les non-chrétiens nous accusent de choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies. On nous critique, on nous dit que l'on fait des choses qui sont mal alors que ce n'est pas vrai. Et on pourrait être des fois tenté de se dire « si tu me cherches, tu vas me trouver finalement ». Mais Pierre dit « Vous êtes appelés à vivre comme Dieu veut que vous viviez. Même auprès des païens, même auprès de ceux qui vous critiquent, même auprès de ceux qui vont peut-être désavouer vos actions. » Et il dit « Parce qu'un jour, quand Dieu va agir dans leur vie d'une manière ou d'une autre, eh bien finalement, ils reconnaîtront que c'est bien de Dieu que cela vient et que ce que vous avez vécu, c'est aussi de Dieu. » Ainsi, Pierre donne un premier élément de réflexion qui s'inscrit dans une logique générale. Excusez-moi. Le chrétien, homme ou femme, est appelé à avoir une bonne conduite, une conduite qui plaise à Dieu au milieu des païens. On n'est pas juste chrétien quand on est avec des chrétiens. On n'est pas juste chrétien quand on vient à l'église le dimanche. En tout cas, je ne vous le souhaite pas, parce que sinon, ça voudrait dire que si vous ne décédez pas un dimanche, vous seriez peut-être perdu alors, si vous êtes chrétien que le dimanche. Mais Pierre nous dit, dans ce monde qui nous est hostile parce que nous croyons au Seigneur, eh bien, nous sommes appelés à vivre comme il le veut, comme lui le demande. Ce n'est pas à nous de choisir si on a bien envie cette fois-ci, ce jour-là, dans telle relation de vivre comme Dieu le veut. Comme disait Katiana tout à l'heure, c'est vrai qu'on dit on aime tout le monde, mais c'est vrai que quand on nous fait une offense particulière, parfois la pratique est plus difficile. Mais pourtant, on est quand même appelé à aimer ceux qui nous font du mal, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous blessent. C'est un message choquant. Parce que ce n'est pas le premier sentiment qui va venir en nous. Nous, on aimerait qu'il y ait une réparation, une justice. Mais Pierre nous dit, vous êtes appelés à vivre comme Dieu le veut au milieu des païens parce que c'est un bon témoignage et c'est comme ça que Dieu veut que vous viviez. Et du coup, c'est cet argument-là que finalement Pierre va transposer aussi à la question de la relation entre les époux et les épouses. On avait vu la dernière fois, quand j'avais prêché sur ce texte, qu'est-ce que Pierre demandait aux épouses, notamment du respect envers leur mari et une conduite qui soit pure, parce que leur témoignage en acte était aussi important que leurs paroles, peut-être même des fois plus. Parfois, nos actes parlent plus fort que les paroles que nous disons, parce que parfois, nous disons des choses et nous vivons autre chose. Alors là, nous discréditons la parole de Dieu, et nous nous discréditons d'ailleurs nous-mêmes. Et du coup, on va voir aujourd'hui ensemble qu'est-ce que Pierre dit exactement au mari et comment le comprendre. Parce que parfois, les choses sont dites de manière claire, mais on ne sait pas vraiment comment les prendre pour nous-mêmes. Ainsi, après avoir parlé aux épouses, Pierre va s'adresser maintenant aux époux qui sont mariés, qui pourraient être mariés avec une épouse non chrétienne. Et il va les appeler à deux choses, et la première chose à laquelle il va les appeler, c'est au discernement. Pierre va appeler les maris au discernement dans leur comportement envers leur épouse. Pierre sous-entend qu'avec notre épouse, alors c'est vrai aussi si elle est chrétienne, mais que quand un homme est marié avec son épouse qui n'est pas chrétienne, eh bien, il ne peut pas se comporter avec elle comme il veut ou n'importe comment. Déjà parce qu'il y a une différence entre les deux, parce que l'un croit et l'autre non. Même déjà des fois, quand on est tous les deux croyants, on a du mal à se mettre d'accord sur certains points. Alors imaginez quand on est marié avec quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur. Il y a là une difficulté supplémentaire. Et sans doute Pierre veut-il appeler les maris chrétiens à réfléchir à la manière avec laquelle ils peuvent se comporter envers leur épouse. Il faut qu'ils discernent ce qui est bien, ce qui est possible de faire, ce qui est juste, ce qui est correct, ce qui est respectueux de leur épouse. L'apôtre met en avant le fait qu'elles ont une nature plus délicate. Certains aiment cette citation, ce texte, et d'autres ne l'aiment pas. Notre société aujourd'hui, elle nous dit, vous les femmes, vous n'avez besoin d'aucun homme. Vous n'avez pas besoin d'un homme, vous n'avez pas besoin d'être mariée. Vous n'avez besoin de personne, vous êtes des femmes fortes, vous êtes volontaires, vous êtes capables de tout, toutes seules. Et là, Pierre nous dit, eh bien, les femmes ont une nature plus délicate. Et là, on aurait envie de dire, Pierre, c'est un misogyne. Pierre, il n'aime pas les femmes. Pierre, il pense que les femmes, ce sont des personnes qui sont faibles, qui sont fragiles. J'aimerais faire un rappel qui me semble important. La parole de Dieu n'est pas là pour nous blesser et nous faire du mal, mais elle est là pour nous sanctifier. Et quand il y a des choses qui, peut-être, un peu comme ce passage, peuvent des fois un peu nous troubler, nous gêner ou parfois nous mettre en colère, eh bien, il nous faut nous souvenir que Dieu nous a laissé sa parole pour nous enseigner, pour nous faire du bien. Et se dire, eh bien, Seigneur, tu vois, là, il y a des choses qui me blessent, qui me font du mal. C'est sans doute pas la bonne manière de réfléchir et j'aimerais que tu m'éclaires pour que je comprenne bien ta parole. Parce que je sais que tu ne veux pas me blesser. Alors des fois, quand on est mis face à la réalité de notre péché, on est quand même blessé. Et là, il faut commencer une œuvre de rédemption avec le Seigneur. Mais si vous êtes aujourd'hui un peu fâchés, mesdames, avec ce texte, eh bien, j'aimerais pouvoir l'éclairer. Je ne suis pas infaillible non plus dans ce que j'apporte. Mais je pense qu'il y a des choses bonnes à comprendre ici. Pierre rappelle qu'il y a une différence entre l'époux et l'épouse. Que, en tant qu'homme, et ça se vaut d'une manière générale, pas simplement si notre épouse est non chrétienne, mais en tant qu'homme, eh bien, on doit être appelé à discerner, à faire attention à la manière dont on vit, dont on agit, dont on interagit avec notre épouse. Moi, des fois, je suis un peu bourru et je dis des choses à Chantal et puis ça la blesse. Et je lui dis, mais tu vas pas te blesser, enfin, tu vas pas être blessé pour ça quand même. Alors déjà, j'arrange pas la situation en répondant comme ça. Mais après, elle me dit, mais toi, peut-être que ça ne te blesse pas, mais moi, ça me blesse. Et il faut que tu le saches, parce que si tu le sais, après, tu pourras faire attention. Des fois, j'arrive à faire attention et parfois non. Mais je crois que Pierre met en avant ici le fait qu'un époux chrétien qui voudrait partager des choses avec son épouse, qui voudrait prendre des décisions avec elle, qui voudrait avancer avec elle alors qu'elle-même ne connaît pas le Seigneur, eh bien, il va falloir qu'il développe un certain tact, une certaine manière de communiquer avec son épouse. Il faut bien comprendre tout le fossé qui sépare quelqu'un de chrétien et quelqu'un de non-chrétien, même quand ils s'aiment. L'un est dans la lumière et l'autre est dans les ténèbres. Et pour vivre ensemble une vie de couple, parfois même avec des enfants, avec cette différence, eh bien Pierre nous dit qu'il faut faire attention à la nature de l'épouse qui est plus délicate. Et on ne peut pas, entre guillemets, rentrer dans le tas comme ça. Il faut avoir du discernement, voir comment est-ce que l'époux chrétien peut exprimer ce qu'il y a dans son cœur à son épouse non chrétienne, pour des questions d'éducation par exemple, pour des questions de décision de famille, des choix dans la direction, je ne sais pas, d'un travail par exemple. Pierre dit qu'elles ont une nature plus délicate. Nous les hommes, on est souvent assez directs, hein. On se pose peu de questions, on réfléchit après, une fois qu'on a cassé un truc, on se demande si c'était bien de l'avoir cassé. Mais Pierre dit qu'elles ont une nature plus délicate, elles sont différentes de nous. Ce n'est pas négatif. C'est une bonne chose. Si Dieu, le Père, dans sa volonté souveraine, a fait les épouses différentes des époux, eh bien c'est bien. Alors ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas des fois délicats aussi et que les femmes ne peuvent pas être maladroites. Hein. Mais Pierre appelle là les maris à faire attention à leur épouse. Et il dit, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Et je pense que Pierre aussi rappelle ici que ben, si mon épouse elle n'est pas chrétienne, ben, je suis quand même appelé à rester avec elle. Vivez chacun avec votre femme. Parfois, peut-être que le désir pourrait venir, l'idée pourrait venir de se dire ben, « je vais simplement me séparer de mon épouse parce que j'en peux plus, ça ne va pas, etc. » Et c'est pour ça aussi que Pierre dit « eh bien, il faut avoir du tact dans cette situation. » Oui, la situation, elle n'est jamais bonne quand c'est un chrétien et un non-chrétien qui sont mariés ensemble. Jamais. Mais s'il se trouve qu'on y soit, alors ça peut être pour différentes raisons que j'aborderai un peu plus tard, mais s'il se trouve qu'on est dans cette situation-là, eh bien, on doit quand même témoigner de l'amour à la personne qui est à côté de nous. Et Pierre donne des éléments de réflexion sur cette question-là. Par l'appel au discernement, Pierre, il appelle les maris chrétiens à la réflexion, à la prise de décision réfléchie vis-à-vis de leur épouse, en pesant le pour et le contre dans toutes les situations, mais sans jamais se parjurer, sans jamais abandonner l'évangile, sans jamais le trahir. Et c'est pour ça sans doute que les maris chrétiens ont besoin de discernement. Pour bien peser, est-ce que je peux prendre cette décision pour le bien de mon épouse, de mon mariage, et en même temps, est-ce que je reste fidèle à l'évangile en prenant cette décision ? C'est un équilibre extrêmement compliqué, et si vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation, vous savez à quel point il est parfois difficile pour celui qui est chrétien de vivre sa foi d'une manière épanouie. Pierre considère que le mari doit prendre son épouse en compte dans tout ce qu'elle est. C'est vrai aussi si on est marié à quelqu'un qui est chrétien. Mais Pierre, là, lance un appel tout particulier à ceux qui sont mariés avec une épouse non chrétienne. Il faut qu'ils prennent tout en compte, notamment l'absence de sa foi. Le mari, il est appelé à se soumettre, pas à son épouse, mais à son devoir d'amour pour son épouse. Les femmes sont appelées à se soumettre à leur époux, on l'a vu déjà plusieurs fois ensemble. Les hommes sont appelés à se soumettre pas à leur épouse, mais à Dieu et à leur devoir d'amour que Dieu leur demande d'avoir. Et sans doute que parfois, dans la relation où l'un est chrétien et l'autre non, peut-être que parfois il y a un peu de la tristesse, peut-être des fois du découragement, peut-être parfois le ras-le-bol. Et peut-être, on a peut-être moins envie d'aimer l'autre. Mais en tant que mari, que notre épouse appartienne au Seigneur ou non, eh bien nous sommes tenus de l'aimer. C'est ce que Dieu veut. Dieu nous demande d'aimer notre épouse comme Christ a aimé l'Église, même si elle n'est pas chrétienne. Il n'y a pas de condition quand l'apôtre Paul écrit ça aux Éphésiens. Il dit au mari, aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église, et pas avec plein de petites lignes dans le contrat qui pourraient nous dédouaner. Pierre, ça n'est pas un misogyne. Il veut au contraire protéger les épouses d'être blessées par leur mari. Et c'est pour ça qu'il rappelle au mari, fais attention à la nature de ton épouse, pour ne pas la blesser, pour ne pas lui faire du mal. Et il l'appelle aussi au respect. Le mari est appelé au respect envers son épouse. Il est appelé à l'aimer, à la considérer comme une créature du Seigneur, créée en image de Dieu. Mon époux, mon épouse, la personne qui est face à moi, c'est une créature qui vient du Seigneur, que Dieu a désiré, qu'il a voulu, qu'il a créé de manière volontaire. Et c'est une personne qui est en image de Dieu. Le discernement qui a été cité précédemment, il doit aider le mari à comprendre comment respecter son épouse. La différence de nature entre l'homme et la femme, ça doit amener au respect de l'époux envers son épouse. Le fait qu'elle soit plus délicate, ça fait qu'on est appelé à traiter nos épouses d'une certaine manière. Et je pense qu'en tant que mari, on doit aussi apprendre à faire attention à la comparaison, à se dire, ben, est-ce que si moi, on se comportait comme ça avec moi, est-ce que ça me blesserait ? Non. Bon, ben, je peux sans doute me comporter comme ça avec ma femme aussi, ça ne va pas la blesser. Parce que souvent, ben, ce qui nous blesserait pas forcément va peut-être la blesser elle, et des fois vice-versa. Mais il y a un respect de l'épouse qui doit être là, dans le mariage. Respect de qui elle est, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle vit. Respect d'autant plus nécessaire lorsqu'on ne peut pas prier avec son épouse, lorsqu'on ne peut pas partager la parole à son épouse, lorsqu'on ne peut pas prendre des décisions dans une foi commune. On a d'autant plus besoin de respecter notre épouse à ce moment-là. Et ce respect, il montre aussi qu'il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Pierre n'est pas en train de dire que les femmes doivent plus au mari et que les maris devraient moins à la femme, ou vice-versa. Dans le couple, il n'y en a pas un qui est moins important que l'autre. Le mari, on l'avait vu la dernière fois, a le droit au respect et à une attitude pure de la part de son épouse, et l'épouse a le droit au discernement et au respect de la part de son mari. Chacun a droit à quelque chose, pas forcément les mêmes choses, mais chacun a droit à quelque chose, et du coup, chacun a des devoirs envers son époux ou son épouse. Les termes sont différents, mais chacun d'entre eux a droit à quelque chose dans le couple. Et même si ce texte est orienté principalement vers les couples que j'appelle mixtes, avec une personne chrétienne et une personne non chrétienne, je crois que ces choses-là sont aussi vraies pour nous. Nos épouses ont droit au discernement et au respect dans la manière dont nous vivons avec elles. Et nous avons droit, en tant qu'époux, à ce que notre épouse ait envers nous une attitude respectueuse et pure. Nous n'avons pas le droit de marteler nos droits sans nous rappeler nos devoirs, et nos épouses n'en ont pas le droit non plus. Nous sommes appelés à vivre comme Dieu nous le demande, et en retour, je dirais, nous avons le droit de nous attendre à ce que l'autre vive envers nous comme Dieu le lui demande aussi. Et c'est une tâche d'autant plus difficile, je le dis encore une fois, lorsqu'il n'y a pas une foi commune pour nous aider. Traitez-les avec respect, nous dit Pierre. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Souvent, nous entendons que la tâche de l'épouse, elle est plus difficile que celle du mari, parce qu'il faut se soumettre. Alors forcément, comme on comprend souvent mal le verbe soumettre, on est gêné et on se dit c'est plus dur pour la femme. Mais vous avez vu ce qu'il est dit ici aux maris, notamment ceux qui sont mariés avec des personnes non chrétiennes. Il est dit, elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. C'est un défi. C'est vrai non seulement des personnes qui sont mariées avec une épouse non chrétienne, mais c'est aussi vrai pour nous. En tant que mari marié à une épouse chrétienne, nous aussi, nous devons emmener notre épouse toujours plus près du Seigneur. Nous devons l'aider, l'accompagner, l'encourager, la diriger vers le Seigneur, l'encourager à porter ses regards sur lui dans toutes circonstances. Mais comment est-ce qu'un mari non chrétien pourrait aider sa femme à tourner ses regards vers Dieu s'il est irrespectueux et qu'il n'a pas de discernement envers elle ? Est-ce que vous auriez envie de connaître Dieu si la personne en face de vous ne fait que vous critiquer, vous bousculer, vous blesser, vous remettre en question ? Je pense qu'il y a de fortes chances que vous n'auriez pas trop envie de connaître ce Dieu qui anime votre mari ou votre épouse. l'époux est appelé à avoir du respect et du discernement pour son épouse parce que par la manière dont il va être avec elle, eh bien, il va pouvoir l'aider à se tourner vers Dieu pour qu'elle puisse recevoir avec son mari la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Et Pierre dit quelque chose qui est extrêmement important ici. Et j'aimerais vous poser des questions ce matin, vous les laisser pour que vous puissiez les emporter avec vous et réfléchir. Est-ce que parfois, par notre attitude, notre comportement, nos paroles, est-ce que parfois on n'est pas nous-mêmes un obstacle à la conversion des personnes qui nous entourent ? On voudrait que les gens autour de nous se convertissent, mais finalement on rend un tellement mauvais témoignage de l'Éternel dans notre manière d'être, dans notre attitude, nos paroles, etc., que finalement les gens se disent « mais si connaître Dieu, c'est être comme ça, moi je ne veux pas en fait, je suis peut-être même mieux sans ». Et est-ce que notre époux, notre épouse, chrétien, chrétienne ou non, eh bien, est-ce que dans la relation qu'ils entretiennent avec nous, ils reçoivent de Dieu ce que Dieu veut leur donner au travers de nous ? Ou bien est-ce qu'on est plus des obstacles à ça ? Je vous encourage, je nous encourage, parce que je suis concerné aussi par cela, et sans doute moi le premier. Mais je nous encourage chacun à demander au Seigneur de nous éclairer si parfois, dans notre attitude, nos paroles ou toute autre chose, nous sommes un obstacle à la conversion de certaines personnes autour de nous. Et si nous nous en rendons compte, eh bien, je nous encourage à demander pardon à Dieu pour ça. Lorsque nous sommes sincères, quand nous demandons pardon avec sincérité à Dieu, eh bien Dieu, il nous pardonne et il nous purifie de toute iniquité. Il nous purifie de ces fautes-là qu'on a pu commettre. Nous ne devons pas prendre à la légère le fait que notre comportement a peut-être eu une mauvaise influence sur les autres personnes autour de nous. Mais nous devons aussi reconnaître que si nous sommes prêts à demander pardon à Dieu et à changer, Dieu nous accordera son pardon par grâce. Pierre ainsi met les époux et les épouses devant leurs responsabilités, mais tout en les encourageant. La conversion de ceux qu'on aime, c'est une chose possible. On a une part à jouer. Ce n'est pas nous qui sommes décisifs ou décisionnaires dans cette partie-là. Mais nous avons un rôle à jouer. Nous avons une manière de vivre qui doit être en accord avec ce que Dieu veut. Rappelons-nous ce qui était au début de cette section de la lettre de Pierre, où Pierre a dit « Ayez une bonne conduite au milieu des païens ». Si mon époux ou mon épouse est un païen, une païenne, je suis appelé à avoir une bonne conduite à côté d'elle et de lui, ou de lui. La conversion des personnes que nous aimons autour de nous est une chose qui est possible et qui dépend de Dieu. Et Pierre est encourageant parce qu'ici, il dit, oui, vous avez des devoirs envers votre époux, votre épouse, mais c'est aussi pour, entre guillemets, mettre toutes les possibilités de votre côté que votre époux ou votre épouse vienne au Seigneur. Il faut garder ça, je dirais, en ligne de mire. Pour aller au-delà des difficultés, pour passer au-delà des problèmes, pour pouvoir vivre ensemble, il faut garder le regard fixé sur le fait qu'un jour, peut-être, notre époux, notre épouse se convertira et connaîtra le Seigneur. Parce que si on reste juste le nez sur le problème de l'instant, eh bien, on oubliera pourquoi est-ce que Dieu nous appelle à vivre comme ça. Nous avons à vivre notre relation selon ce que Dieu demande, parce que c'est ce que Dieu veut. Et si c'est difficile pour nous, eh bien, nous pouvons demander à Dieu son secours pour vivre de cette manière-là. Si nous voulons être obéissants au Seigneur, le Seigneur ne nous empêchera jamais de l'être. Et il sera toujours prêt à nous aider à l'être. Alors si nous nous rendons compte que nous avons des difficultés à vivre les choses de cette manière-là, eh bien nous pouvons demander à Dieu de l'aide. Nous pouvons crier à lui et il nous répondra. Il nous aidera à vivre comme il veut que nous vivions. L'épouse doit ainsi la soumission et le respect à son époux. Et l'époux doit lui aimer et respecter son épouse en discernant ses besoins, ses attentes et la manière de vivre avec elle. Ces attitudes respectueuses de la volonté de Dieu sont un témoignage plus puissant parfois que nos paroles, même quand elles sont bien intentionnées. Je ne dis pas par là qu'il ne faut jamais parler de l'Évangile, annoncer les choses ou parfois reprendre l'un ou l'autre s'il se trompe, mais que nos paroles et nos actes ne soient pas dissonants, que l'un et l'autre aillent dans le même sens, dans la même direction, pour que nous puissions donner envie à d'autres de connaître Dieu. Le mari et la femme doivent obéir à la volonté de Dieu. Nous le devons tous, même si on n'est pas marié, dans d'autres domaines du coup que le mariage, dans tous les domaines, nous devons respecter et obéir à la volonté de Dieu pour nous. On aime notre époux et on aime notre épouse comme Dieu le veut. Déjà parce qu'on a de l'amour pour eux, mais aussi parce qu'on veut respecter Dieu, parce qu'on veut vivre comme lui veut qu'on vive, parce qu'on l'aime. Il n'y a pas d'amour méritant. J'aime mon épouse, j'aime mon époux, pas parce qu'il ou elle le mérite, mais parce que j'obéis à Dieu et que je décide volontairement d'être obéissant et de faire ce que Dieu veut que je fasse. Aimer quelqu'un et vivre bien avec quelqu'un, c'est aussi une question de volonté. Nous avons besoin que Dieu change notre cœur pour que nous ayons de l'amour les uns pour les autres, pour notre époux, pour notre épouse, mais nous devons aussi vouloir que les choses se passent comme ça. Et nous devons être prêts à mettre en œuvre des choses concrètes pour que les choses puissent être faites ainsi. Mais j'aime pas l'autre parce qu'il a mérité que je l'aime. Et si un jour vous vous dites « Ah non, hein, moi je veux pas aimer mon époux, je veux pas aimer mon épouse », ou on peut même donner ça aussi aux enfants, on peut penser à nos professeurs, on peut penser à nos patrons, etc. Non, j'ai pas envie de l'aimer parce qu'il est comme ceci, il est comme cela. Bien, rappelez-vous que Christ nous a aimés le premier alors que nous n'avions rien d'aimable. Dieu nous a pas aimés parce qu'on a mérité d'être aimés. Dieu nous a aimés le premier parce qu'il a décidé, il a voulu nous aimer. Parce qu'on est ses créatures, il nous a voulu et désiré, il nous a créés pour qu'on soit en relation avec lui. Mais dans notre mariage, on n'est pas appelé à aimer l'autre parce qu'il l'a mérité. Alors ça ne veut pas dire que l'autre a le droit de nous blesser tout le temps et que ça ne doit rien nous faire ou qu'on n'a rien le droit de dire. Mais sans doute que si j'attends que l'autre mérite mon amour, eh bien je risque de jamais vraiment l'aimer. Ou alors ce sera un amour malsain. Parce qu'il ne sera pas vrai, il ne sera pas sincère. On ne recherche pas non plus un amour intéressé. J'aime pas mon époux ou mon épouse d'une façon intéressée en espérant recevoir en échange quelque chose de la part de Dieu. Ah ben je vais être bon avec mon époux ou avec mon épouse et puis Dieu va être un peu plus favorable envers moi. Ça c'est du marchandage. Hein. Ça ne marche pas ça. ça n'existe pas. Quand Dieu nous accorde quelque chose, c'est toujours parce qu'il nous aime et parce qu'il nous fait grâce. Et j'aimerais aussi pour clore sur ces différents types d'amour qui ne sont pas vraiment bons, j'aimerais rappeler aussi que, en tout cas, j'aimerais nous aider à nous souvenir lorsque il y a quelqu'un autour de nous qui n'appartient pas au Seigneur, lorsque nous prions pour lui, pour elle, mari, femme, enfant, ami. J'aimerais nous mettre en garde de ne pas avoir un amour qui est tourné que vers la conversion. Où finalement, on se dit, j'aime mon époux, j'aime mon épouse, j'aime mes enfants, parce que peut-être un jour, ils vont se convertir, et du coup, quand ils seront convertis, ce sera super bien, parce qu'on sera toujours d'accord, parce qu'ils arrêteront de me casser les pieds, parce que je ne veux pas qu'ils fassent des choses qu'ils veulent faire, etc. Des fois, on a cette pensée un peu, elle n'est pas forcément toute volontaire, hein, mais il y a cette pensée qui n'est pas toujours très saine, de regarder l'autre et de se dire « Ah, quand il sera converti, qu'est-ce que ce sera bien ?» On n'aime pas les gens pour ce qu'ils vont peut-être un jour devenir. Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres aujourd'hui et maintenant. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'un jour on allait être convertis. Il nous a aimés malgré ce qu'on était. Et c'est parce qu'il nous aime qu'un jour on a pu le rencontrer. Mais j'aimerais vraiment nous mettre en garde contre ça, de ne pas tomber dans ce piège, de se dire j'aime mon enfant, mais finalement j'aime l'espoir que je place dans mon enfant qu'un jour peut-être il sera chrétien. J'aime mon épouse, mais j'aime l'espoir que j'ai qu'un jour on pourra aller à l'église ensemble. On a le droit de vouloir désirer ces choses, que les gens qu'on aime se convertissent. Mais ne projetons pas un amour irréfléchi ou malsain sur l'idée qu'un jour peut-être celui que j'aime et qui est en face de moi va se convertir et du coup, j'aime celui ou celle qu'il va devenir. On est appelé à aimer aujourd'hui. Malgré les fautes, malgré les erreurs, malgré les péchés, malgré les blessures, malgré les imperfections de la relation, on est appelé à s'aimer aujourd'hui. Parce que si jamais la personne qui est à côté de nous ne se convertit jamais, eh bien on aura un espoir tellement déçu. On sera tellement malheureux. Alors ma prière, c'est que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur se convertissent. Et j'ai espoir que le Seigneur fait que d'autres viennent à lui. Mais nous savons aussi par l'expérience qu'il y a des personnes qui ne se tournent pas vers le Seigneur. J'en ai eu dans ma proche famille. Et je sais que lorsque mon grand-père paternel est décédé, il est décédé sans connaître le Seigneur. Parce qu'il n'en a pas voulu. Il y a dans ma famille un pasteur qui est un de mes oncles, qui est le frère de mon père. Il y a mon père qui est quelqu'un qui évangélise énormément. Et il y a un autre de mes oncles qui a été évangéliste à un moment. Alors je peux vous dire que mon grand-père a entendu l'évangile. Ce n'était pas manque de ça et on a prié pour lui pour qu'il se convertisse. Mais il n'a pas voulu. Alors voilà, nous savons que, eh bien, il y a des personnes qui ne se tournent pas vers le Seigneur, mais nous devons continuer de prier et d'espérer en Dieu jusqu'à la fin. Mais n'aimons pas les gens pour ce qu'ils pourraient peut-être devenir. Aimons-les pour ce qu'ils sont maintenant. Et aimons-les surtout quand ils n'ont rien d'aimable, parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont le plus besoin d'être aimés. Dieu nous a aimés malgré ce que nous étions, avant que nous le connaissions. C'est pour ça qu'il a donné Christ pour nous. Paul le rappelle en disant « Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Aimons notre époux ou notre épouse qui peut-être ne connaît pas le Seigneur. Aimons nos enfants de cette manière-là. Les aimer alors même qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Il nous faut aussi reconnaître que ces questions de relations entre chrétiens et non-chrétiens, eh bien, ce sont des questions qui restent complexes. Ce sont des questions qui ne sont pas faciles à gérer de manière pratique. Il est sûr que, Bible en main, il est très facile d'établir une théologie de ce qui doit se faire ou ne pas se faire. Mais si vous vous êtes déjà entretenu avec quelqu'un qui est dans cette situation, vous savez qu'on ne peut pas juste balancer des versets bibliques à la figure de quelqu'un. Nous considérons bien entendu qu'une personne chrétienne, elle cherchera toujours à se marier avec une personne chrétienne. Ces textes-là n'excusent absolument jamais le fait qu'il puisse y avoir un mariage entre une personne chrétienne et une personne non chrétienne. Ces textes ne sont pas des excuses. Ces textes ne nous permettent pas de dire « Je m'engage avec la bénédiction du Seigneur dans une union mixte », comme je disais, chrétien, non chrétien. Ces textes sont là pour dire « Eh bien, si vous êtes dans cette situation », et Pierre ne dit pas si, dans les situations ici, est-ce que les deux étaient inconvertis, se sont mariés et l'un s'est converti après ? Est-ce que l'un était converti, il s'est marié avec un inconverti ? On ne sait pas. Pierre ne nous le dit pas, alors on ne peut pas l'affirmer, nous on ne peut rien dire. Mais Pierre montre, s'il y a une situation qui est comme ça, voilà comment vous devez agir envers votre époux, votre épouse. Et pourquoi vous devez le faire, c'est qu'il y a l'espoir que peut-être un jour la personne qui est à côté de vous se convertira. Mais ces textes-là n'excusent pas, ne sont pas des prétextes, ne doivent jamais devenir un texte que l'on brandit en disant bah, « Vous voyez, si la Bible en parle, c'est bien qu'on a le droit. » Sauf que si c'était vrai, pourquoi est-ce que la parole pointerait du doigt le fait qu'on espère que l'inconverti se convertisse ? Si c'était une situation acceptable, l'inconverti n'aurait pas besoin de se convertir. Mais parfois, eh bien, il arrive que oui, certains d'entre nous, eh bien, nous nous engageons avec quelqu'un qui ne partage pas notre foi. Les cas sont, les raisons peuvent être différentes, les situations différentes. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de jeter la pierre à ceux qui auraient peut-être fait un mauvais choix en se mariant avec quelqu'un qui ne partagerait pas leur foi. Je ne dis pas que c'est bien. La parole n'est jamais d'accord quand c'est une union mixte. On peut voir d'ailleurs que quand les Juifs sont retournés en Israël avec Esdras, Esdras a demandé que ceux qui s'étaient mariés avec des étrangères se séparent d'elles et de leurs enfants. Parce que pour que le peuple soit pur, il ne fallait pas qu'il y ait d'union illicite avec des gens qui n'étaient pas du peuple d'Israël. Donc on ne peut pas dire que la parole elle est contente ou d'accord ou qu'elle cautionne ce genre de relation. Mais j'aimerais dire que si quelqu'un est dans ce type de relation et qu'il se rend compte qu'il a péché, qu'il a désobéi à Dieu, eh bien, tournez-vous vers Dieu. Criez à Dieu. Reconnaissez votre faute. Demandez-lui pardon. Dieu est un Dieu qui nous pardonne si nous sommes prêts à nous repentir. Si Dieu ne nous pardonne pas, c'est jamais parce qu'il n'a pas voulu. C'est parce que nous, on n'a pas voulu se repentir. C'est parce que nous n'avons pas voulu demander pardon. Mais oui, il arrive que nous prenions dans notre vie des décisions qui sont mauvaises, qui sont parfois même plus que mauvaises, parfois catastrophique, cataclysmique. Mais Dieu est un Dieu qui peut venir nous chercher aussi au milieu du cataclysme de notre vie, pour nous encourager, pour nous aider, pour nous assurer de son pardon. Alors si vous vous retrouvez dans ce genre de situation et que vous vous dites « mais j'ai mal agi, j'ai pris la mauvaise décision à l'époque, peut-être même je le savais, j'étais conscient que je prenais une mauvaise décision, mais je l'ai quand même fait. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu tort. » Eh bien, demandez pardon au Seigneur et Dieu vous pardonnera. Nos fautes sont extrêmement graves devant Dieu. Mais la grâce qui nous a été donnée par Jésus-Christ nous couvre, et elle couvre entièrement ses fautes. Lorsque nous demandons pardon, nous pouvons être certains que si nous sommes sincères, eh bien Dieu nous pardonne, qu'il ne reviendra pas sur ce qu'on a fait. Alors si on est marié à quelqu'un de non-chrétien, forcément, même si on demande pardon à Dieu, on ne va pas être démarié. Mais au moins, eh bien, on pourra continuer de vivre avec la certitude que Dieu est à nos côtés, qu'il nous a pardonné et qu'il veut nous aider. Encore une fois, nous n'excusons ni ne cautionnons les mariages mixtes. Mais nous croyons que Dieu est un Dieu de grâce qui pardonne à ceux qui ont le désir de se faire pardonner et de se repentir. Je vous encourage aussi, eh bien, si vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation, moi je vous encourage à parler avec eux, à leur demander comment ça va, comment est-ce que je peux prier pour toi, comment est la situation actuellement, de quoi est-ce que tu as besoin particulièrement. Et puis de les encourager avec ces textes-là, leur dire voilà ce que Dieu attend de toi. Je prie pour toi que tu puisses vivre ces choses-là parce que c'est ce que Dieu veut pour toi et c'est ce qui est bon pour toi. Soyons des personnes qui sont prêtes à entendre, à écouter, à épauler, à accompagner ceux qui sont dans ce genre de situation et qui ont besoin de notre aide. Parlons avec eux pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé. Encourageons-les à aller vers le Seigneur, parce que c'est en Dieu que réside tout notre espoir, pour le pardon des fautes que nous avons commises, mais aussi pour la conversion de ceux que nous aimons et qui aujourd'hui ne connaissent pas le Seigneur, et en particulier pour notre époux ou notre épouse. Je vais prier pour conclure. Notre Dieu, notre Père, je veux te louer, te remercier. Te louer et te remercier parce que tu es un Dieu qui nous aime. Tu es un Dieu qui a voulu de nous, qui est venu nous chercher là où nous étions. Nous n'étions pas aimables. Nous n'avions rien qui mérite que tu t'intéresses à nous, que tu nous aimes, que tu nous sauves. Mais tu l'as fait parce que tu nous aimes de toute éternité. Tu as donné Jésus-Christ pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Je voudrais te remercier pour ces textes qui nous montrent que oui, il existe des situations qui ne sont pas bonnes, mais que tu es aussi présent dans ces situations-là. Ce n'est jamais une excuse pour nous mettre dans ce genre de situation, mais c'est un encouragement pour ceux qui s'y trouvent à te faire confiance, à se tourner vers toi, à crier au secours auprès de toi. C'est un encouragement aussi à s'approcher de toi pour te demander pardon si nous avons péché, volontairement ou de manière moins consciente peut-être. Merci parce que tu nous dis comment tu t'attends à ce que nous vivions ces relations. Et merci parce que tu nous donnes cet encouragement. Si nous vivons conformément à ce que tu veux, eh bien ce sera un bon témoignage pour ceux qui nous entourent et ce sera tout particulièrement un bon témoignage pour notre époux ou notre épouse si elle ne te connaît pas. Alors je te prie pour que tu aides nos frères, nos sœurs qui sont dans cette situation, pour qu'ils puissent trouver auprès de toi tout ce dont ils ont besoin pour arriver à respecter dans une attitude pure, leur époux, mais pour qu'ils arrivent aussi eh bien, à avoir du discernement et du respect pour leur épouse. Nous te prions surtout pour ces conjoints, ces conjointes qui ne te connaissent pas, pour qu'un jour tu sois leur père comme tu es notre père à nous, pour qu'un jour ils puissent saisir la grandeur de la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ et qu'eux aussi puissent être en communion avec toi. C'est notre désir le plus cher aussi pour nos enfants, pour les membres de nos familles, pour nos amis, pour les gens avec qui nous vivons et que nous aimons. Et je voudrais vraiment remettre à ta grâce tous ceux que nous connaissons et qui ne t'appartiennent pas pour que toi aussi, pour que eux aussi, pardon, un jour, ils puissent dire que tu es leur Père et que Christ est leur Seigneur et leur Sauveur. Tout notre espoir est en toi pour la conversion de ceux que nous aimons. Nous te prions, nous te demandons, nous te faisons confiance, mais c'est toi qui agis. Et comme l'a dit Jésus-Christ, personne ne peut venir à lui si toi tu ne l'attires pas. Alors nous te remettons toutes ces personnes auxquelles moi je pense, auxquelles nous autres aussi nous pensons, et nous voulons vraiment te les confier, te les remettre, et te prier, Père éternel, dans ta grâce de les sauver. C'est au nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Merci pour votre attention.